Biodiversité on Air, un magazine proposé par la CORLAB, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Quels sont les effets de la main de l'homme sur nos cours d'eau depuis plus de deux siècles en Bretagne ? Canalisation, dérivation, navigation, agriculture intensive, comment nos fleuves et nos rivières ont réagi à toutes ces transformations? Avant d'en parler dans quelques instants avec Maëlle Turiès, animatrice territoriale à Eaux et Rivières de Bretagne, direction le Blavet, ce fleuve du centre et du sud Bretagne, à la rencontre de François Lesagère de l'APMA, Association de pêche et de protection des milieux aquatiques. C'est un reportage de Sabine Cros de Radio Balise.
Je suis né au bord du Blavet, je vis au bord du Blavet, je connais beaucoup le Blavet.
J'ai peut-être des lampes marines là.
Donc j'ai fait barrer les coursiers. Il y avait beaucoup d'eau dessus. Elles arrivaient là-dessus, mais comme elles n'arrivent pas à leur bec à prendre le bois, elles n'arrivaient pas à monter.
François Lesagère, je suis le président de l'association de pêche et de protection des milieux aquatiques du pays de l'Orient. Ce que je connais bien du Blavet, c'est le Blavet actuel, c'est le Blavet canalisé. C'est Napoléon, en 1800, qui a décidé, ou en 1790, de construire le Blavet, et ça a pris du temps d'ailleurs, mais en 1805, il a été inauguré. Le Blavet qu'on a sous les yeux a été creusé pour devenir d'une rivière sauvage, une rivière pour mettre des bateaux qui transportaient des marchandises à l'époque. Les bateaux initiaux étaient des bateaux à fond plat, si bien que le Blavet n'avait pas le même tirant d'eau qu'aujourd'hui, c'est-à-dire en clair, la même hauteur d'eau. Quand sont arrivées les péniches, il a bien fallu tenir compte que les péniches avaient des cuves à l'intérieur pour transporter. Et ces cuves ont obligé les aménageurs de l'époque à rehausser le Blavet. On l'a rehaussé avec des poutrelles, et sur les poutrelles, on a mis des barrages qui permettent cependant de traverser maintenant de la rive droite à la rive gauche. Voilà. Et pendant 200 ans, il a été utilisé de moins en moins, finalement. Au début, un tout petit peu de bateaux, après des bateaux à cuve, mais est arrivé le train et la voie ferrée. La voie ferrée est très vite dépassée par les camions de transport, si bien qu'aujourd'hui, le Blavet n'est plus utilisé depuis une trentaine d'années pour le transport de marchandises, mais simplement pour le tourisme de navigation qui a beaucoup évolué.
Et du fleuve sauvage au fleuve canalisé, comment la faune, la flore se sont adaptées à ces changements brutaux ?
Très bonne question. Comment on s'adapte à des changements brutaux ? S'adapte-t-on, si j'osais dire ? S'adapte-t-on ? Alors, certaines espèces de poissons sont des poissons qui vivent dans des eaux un peu plus stagnantes, et ceux-là se sont adaptés. En clair, des poissons blancs, des carpes, des poissons comme ceux-là. Par contre, pour la vie des poissons qui ont fait la richesse du Blavet, et la richesse des territoires et des personnes qui habitaient sur ce territoire d'Ennebon à Pontivy, ça a beaucoup changé. En 1800, il y avait 60 pêcheries professionnelles, des fermiers quelque part, des fermiers de l'eau, qui employaient 3 ou 4 personnes et qui, à l'époque, eh bien, pêchaient du poisson pour nourrir les populations avoisinantes. Pêchaient des espèces principalement que sont le saumon, la lauze, l'anguille et la lamproie marine.
Elles verraient si elles avaient, parce que là, elles ont un peu de mal à prendre les tasses. Il n'y en a pas, elles sont montées.
Bien sûr, ces pêcheries ont disparu. On ne vit plus aujourd'hui de cette pêche. Mais on ne vit plus pourquoi de cette pêche ? Tout simplement parce qu'il y a moins de poissons. Alors le poisson, aujourd'hui, on le pêche encore avec des totales autorisées de capture, comme le saumon, par exemple. On peut en prélever quelques-uns. On va dire qu'il remonte entre 700 et 800 saumons sur le Blavet et qu'on en capture 10%. Voilà. Sur les anguilles, il y en a très peu, il n'y a plus de civelle à arriver. La civelle, donc l'anguille va se reproduire en mer des sargasses, elle pond des larves, ces larves petit à petit naissent et s'appellent civelles et elles remontent les cours d'eau. Et aujourd'hui, les arrivées de civelles sont de très très faibles quantités. Après, elles doivent franchir les barrages, se disperser sur le bassin et au bout d'une vingtaine, entre 20 et 30 ans, repartir en mer pour aller se reproduire et refaire un cycle. Mais pendant les 20 ans
pendant lesquelles elles sont dans nos eaux, eh bien elles consomment ce qu'elles trouvent au fond de l'eau. Et le fond de l'eau aujourd'hui, c'est beaucoup de restes de produits pharmaceutiques, pour faire simple, et de pesticides, pour faire encore un peu plus simple.
Et est-ce que cette canalisation du Blavet a eu des effets aussi sur la flore ?
Alors, sur la flore, pendant très longtemps, avant le réchauffement climatique, si j'osais dire, pas trop finalement, pas trop. Et depuis quelques temps, sont apparues les herbes envahissantes. Et là, c'est un vrai problème. Si vous posiez la question à la région, je pense qu'elle vous dirait que pour elle, ça a un coût phénoménal de gestion, que ce soit sur le Blavet ou les autres rivières canalisées d'ailleurs. On a vu apparaître des plantes envahissantes qui s'appellent de l'élodée, de la jussie. Ça, c'était il y a 15 ans. Il fallait déjà les traiter depuis quelques années. Et là, maintenant, on voit apparaître une autre plante envahissante qui, elle, est recouvrante de Blavet, qui s'appelle l'hydrocotyle. Et cette hydrocotyle, qui, elle, doit être gourmande, je pense, en phosphate quand même, et je pense qu'on est assez riche en phosphate, et bien, elle se développe de façon, si j'osais dire, par moment, exponentielle.
Là, c'est pas l'hydrocotyle, hein. Celle-là, c'est la jussie.
Ah oui, qui fait des longs filaments.
Voilà, vous voyez, elle est là. Donc, vous voyez, là, vous voyez où elle arrive déjà. Hein. Donc, ils vont venir les arracher, là. Et l'autre, c'est une plante qui va couvrir, qui part comme un fraisier, comme ça. Alors vous n'en verrez pas ici, parce qu'il n'y en a pas, là.
Il n'y en a pas.
Si vous alliez à 10 km au-dessus, elle est déjà au milieu du Blavet. C'est incroyable. Elle va bouffer le phosphate qu'il y a, et avec la chaleur, pop, elle va se multiplier à une vitesse. Mais folle, hein. Voilà l'état du Blavet. Quoi.
En quoi... Est-ce un enjeu finalement de se préoccuper du fleuve, de se préoccuper de la biodiversité ?
Alors c'est un enjeu fort. C'est un enjeu fort. Si vous regardez, nous sommes ici en Pays de l'Orient. Le Pays de l'Orient actuellement c'est une population. Si on se projette dans les années 2050-2070, eh bien on s'aperçoit que la population va encore augmenter. Et pour cette masse de personnes, il faudra une eau disponible, mais une eau de qualité. Et on est persuadé qu'une eau libre, en clair une eau qui n'est pas barrée par quelque chose, par quelque chose d'horizontal sur une rivière, permettra certainement d'apporter des réponses à ce cap. Et faute de quoi, avec le réchauffement climatique, il est certain que le nombre de litres qui s'évapore à tout instant d'une eau prisonnière est énorme. Et donc, on n'aura pas les réponses possibles à la vie de demain. Donc, la vie de demain... doit se préparer dès aujourd'hui, et dans ce cas de cette préparation-là, ouvrir les réflexions pour que le Blavet puisse retrouver, je pense, un cours plus naturel, et tout en conservant ce qui a été bien fait à l'époque, et ce qui a été bien fait à l'époque et qui s'est développé, et on l'a vu depuis la crise du Covid particulièrement, ce sont les chemins de halage. Il n'y a pas un instant pendant que nous parlons qu'il n'y a pas des vélos qui passent derrière nous, ou des piétons, ou des joggeurs, ou des gens qui se promènent tout simplement, qui viennent chercher autour d'une grande ville un bol d'air à 15-20 km. Et aujourd'hui, la réflexion du Blavet est un petit fleuve à son échelle. 60 km, c'est petit et c'est grand à la fois. Et compte tenu de l'intérêt des chemins de halage aujourd'hui pour le tourisme, pour l'économie verte, et compte tenu de l'intérêt pour l'eau, mais pour une eau de qualité, une eau avec plein de vie, je pense qu'on peut effectivement avoir une gestion différenciée du Blavet. C'est vrai que... quand vous êtes sur le bord du halage, vous regardez l'eau, c'est un joli miroir. C'est vrai que quand on y voit un canard, c'est un joli miroir. Mais on aurait un miroir différent, avec une eau libérée, en clair, avec des barrages ouverts, dans un premier temps. La vérité est qu'il y a de plus en plus de monde à vivre au bord de la rivière, et je suis persuadé que s'ils avaient, au bord de ce chemin de halage, un Blavet naturel, comme il existe sur une partie d'ailleurs actuellement, parce qu'il y a quand même un barrage qui était parti il y a quelques années après une inondation à l'amont de Pontivy. Ce barrage-là n'a jamais été remis, les écluses, les barrages n'ont jamais été refaits. Aujourd'hui, on a 4 km de rivière, ça s'appelle Auquignan, sur le haut du Blavet, qui sont naturels. Et qu'est-ce que c'est merveilleux! Et pour autant, il faut bien comprendre que l'eau, il n'y en a pas moins, il n'y en a pas plus. Hein. Le volume d'eau qui arrive, que ce soit canalisé ou naturel, c'est toujours le même. Hein. C'est celle qui nous est tombée du ciel, qui rentre dans la terre et qui ressort de la terre. Hein.
À l'instant, ce reportage signé Sabine Croix de Radio Balise, le long de l'histoire et de la vie du Blavet, du fleuve sauvage au fleuve canalisé. Alors pour aller plus loin, nous recevons aujourd'hui Maëlle Thuriès, animatrice territoriale à Eaux et Rivières de Bretagne, association qui œuvre depuis plus de 50 ans à la restauration et à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans notre région. Bonjour Maëlle Thuriès.
Bonjour Nicolas.
Alors tout d'abord, comment réagissez-vous au reportage que l'on vient d'entendre ?
Alors ce reportage qui nous fait très plaisir, nous, à Rivière de Bretagne, il a le mérite de mettre en lumière la capacité que nous avons eue à transformer les milieux et en particulier les cours d'eau. Les cours d'eau et donc la nature en général a été très modifiée par l'humain. Donc nos paysages ont été très très modifiés et je dirais en particulier les cours d'eau presque de façon invisible. C'est-à-dire que les cours d'eau sont des milieux que l'on voit le moins parce que ils sont quand on regarde à l'horizon, ils sont quasiment sous le niveau de l'horizon, cachés par une petite forêt et donc on y prête moins attention. Contrairement au bocage, par exemple, où je dirais que dans l'opinion publique, tout le monde sait qu'on a un petit peu le linéaire qui a été très élimé. Mais le cours d'eau, la rivière, elle aussi a subi de fortes modifications. Et on ne s'imagine pas, mais un nombre incroyable de linéaires de cours d'eau a été tiré au droit. Donc on a effacé des méandres, on a même recalibré des cours d'eau, c'est-à-dire qu'on a creusé pour que ça aille plus vite. On a mis des tunnels, on a mis tout un tas de choses, on a abusé pour avoir des routes. Et résultat des courses, le cours d'eau a été le milieu le plus fortement modifié. Et le Blavet, je dirais, en est un exemple pharaonique, emblématique, tout à fait.
Ouais. Du coup, c'est des interventions humaines qui ont modifié ces cours d'eau. C'est l'homme, finalement, qui a tout fait.
Complètement. C'est vraiment un travail réalisé par l'humain, pensé par l'humain, pour mettre en place... quand on est sur un paysage rural, une certaine agriculture, et quand on est en milieu urbain, pour étendre la ville. Quoi. Mais sous nos villes, il faut avoir en tête que sous nos villes, des cours d'eau sont transformés en tuyaux. Quoi.
Comment vous jugez vous-même l'état actuel de ce fleuve qui a subi tant de transformations, on l'a entendu dans le reportage, à travers les âges, depuis au moins le 19e siècle?
Alors ce Blavet, comme le démontrait François Le Sagère, ce Blavet qui est donc un fleuve qui termine sa course dans la rade de Lorient, c'est maintenant, c'est depuis 200 ans, un canal. Essentiellement. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait presque le comparer à un tuyau à demi ouvert, hein, si vous voulez. Ce qui fait qu'en tant que cours d'eau, il a perdu et beaucoup de ses fonctionnalités, de sa vie de cours d'eau. Parce qu'un cours d'eau, c'est pas uniquement de l'eau qui file, c'est un échange poreux en permanence avec ses berges, avec son sous-sol. Et c'est vrai qu'en l'ayant canalisé, on perd tous ces échanges-là, un peu comme dans nos intestins, vous savez, il y a beaucoup d'échanges qui se font. Il y en a une bonne partie qui s'est perdue. Et j'allais dire que par rapport au changement climatique et à la biodiversité, qui sont, deux enjeux maintenant qui sont extrêmement prégnants sur notre environnement et dans notre siècle, le Blavet a perdu beaucoup de sa potentialité.
Il y a l'histoire des méandres, ce qu'on appelle les méandres, c'est les courbures d'une rivière, c'est les virages, les virages que fait une rivière ou un cours d'eau ou un fleuve. Là, pour le Blavet, c'est assez caractéristique. Finalement, on a canalisé un cours d'eau et il a perdu tout de son cours naturel, finalement, depuis deux siècles.
Oui. Avec en plus le fait qu'il est je crois qu'il emploie ce terme François Le Sagère comme s'il avait des petites vertèbres, c'est-à-dire que comme il y a une centaine d'écluses qui viennent obstruer le cours de l'eau, c'est-à-dire que juste le fait de s'écouler, rien que ce fait-là, on est dans un comme si on était en présence d'un petit chapelet de plans d'eau. Et une eau qui stagne, c'est une eau qui se dégrade.
qui est moins vivante, finalement.
Alors, non seulement elle est non vivante, mais en plus, elle se dégrade. Elle se dégrade parce que comme elle ne court pas, elle est stagnante. Et de fait d'être stagnante, elle se réchauffe beaucoup plus. Et la température, en biologie, c'est un facteur limitant très, très fort hein, dans la qualité. Et donc, ça veut dire derrière beaucoup d'espèces que l'on ne retrouvera pas, potentiellement certaines que l'on ne souhaiterait pas qui vont se développer. Et pareil, la François Le Sagère y fait référence. Il y a donc des plantes qui ne peuvent vivre qu'en milieu stagnant. Mais la température joue un rôle essentiel dans le dysfonctionnement ou le bon fonctionnement d'un cours d'eau. Et donc, plus la température est fraîche, j'allais dire, mieux c'est pour le fonctionnement aquatique.
Donc disparition déjà de plantes aquatiques au profit d'autres plus invasives, c'est un des premiers effets de ces transformations. Oui. Est-ce qu'il y a également des impacts pour la faune aquatique, pour les poissons ?
Oui, les poissons sont extrêmement sensibles à la qualité de l'eau. Et j'allais dire qu'au-delà de 17 degrés, l'eau n'est plus bonne qu'à cuire le poisson.
Ouais.
Et donc, il y a un enjeu fort à maintenir une température clairement en deçà des 17, idéalement autour des 12, pour que le saumon, qui est encore un poisson qu'on retrouve un petit peu sur le Blavet, mais qui est une espèce, j'allais dire, au niveau global, qui est une espèce en voie de disparition. Donc, on a une responsabilité forte sur le Blavet pour, à tout le moins, en regard du saumon, d'essayer de le maintenir, quoi.
Mais quand vous parliez de température à l'instant, quelle est la relation entre la canalisation du fleuve et la température de l'eau ?
Alors la canalisation favorise une augmentation de la température de l'eau, parce que l'eau ne bouge pas. Donc ça veut dire que d'écluse en écluse, l'eau elle reste stagnante et de ce fait, elle emmagasine les températures, et notamment quand il commence à faire bon à partir d'avril jusqu'à octobre, presque novembre maintenant, quoi.
Donc la canalisation du Blavet, c'est déjà une cause majeure de la perte un petit peu de ces eaux de qualité dans ce fleuve. Est-ce qu'il y a d'autres causes du monde moderne aujourd'hui qui expliquent aussi la dégradation des eaux de ce fleuve, le Blavet ?
Oui, François Le Sagère, je remonte au reportage, c'est important de remonter le lien, il dit le terme phosphore. Donc, phosphore, j'allais dire après surtout aussi nitrate et pesticides, sont des éléments caractéristiques, j'allais dire, du monde moderne, parce qu'on enrichit énormément le milieu alors, de ces deux nutriments, phosphate et nitrate, mais surtout nitrate, et puis ensuite de produits chimiques. Liés en grande partie par la modernisation de l'agriculture et puis aussi par, alors si on parle des produits chimiques, on a aussi une grande utilisation à la maison hein, ou produits ménagers et aussi les produits pharmaceutiques que l'on utilise hein, et puis finalement que l'on rejette à travers les eaux usées, les stations d'épuration qui ne traitent pas toutes ces molécules hein, que l'on utilise. Donc, oui, il y a une pollution chimique qui est importante dans nos cours d'eau. Et c'est vrai que le cours d'eau, non seulement on ne le voit pas, comme je le disais au tout début, mais en plus, c'est toujours lui qui prend tout, quoi. Et donc, dès qu'on l'analyse, en fait, on a une révélation de l'activité humaine à un instant T quasiment, quoi.
Est-ce qu'on peut d'ailleurs mesurer la disparition, le nombre de disparitions de poissons ou d'espèces de poissons ? Est-ce que ça se mesure facilement à travers le temps, finalement, ce qui est arrivé à cette rivière et à sa faune ?
Alors, je dirais qu'il y a d'abord des témoignages empiriques qui sont très poignants. Et justement, les pêcheurs sont ceux qui savent dire... avec beaucoup de précision, à dire, ben voilà, moi quand je pêchais il y a 20 ans, moi quand je pêchais il y a 30 ans, j'avais ça, et j'étais avec un nombre de tant d'espèces que je ramenais dans ma besace à chaque coup, quoi. Et là, maintenant, pour beaucoup, quand on les écoute, ils vous disent, bon, ben là, j'ai ramené une truite, quelle bonne pêche, quoi. Ouais. Et ça, déjà, c'est attristant. C'est déjà presque ça suffit comme témoignage pour se rendre compte de la situation. Après, il y a des suivis qui sont organisés par des techniciens de rivière qui sont utilisés justement pour qualifier les états des cours d'eau, savoir s'ils sont en bon, moyen ou mauvais état. Et dans le bon état des cours d'eau, il y a un critère qui est justement la biologie des cours d'eau, donc le nombre de poissons, le nombre de petites bêtes que l'on y retrouve. Et en fonction de leur sensibilité à la pollution, on arrive à dire, ben voilà, tel cours d'eau est plutôt en bon état et celui-là commence à être dégradé.
Alors face à ce constat et à cette crainte, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, association, organisme, fédération de pêche, pour essayer de contrer cette évolution presque inexorable, si on vous écoute?
Alors pour le Blavet, on essaie de convaincre. Ouais. On essaie de convaincre.
Plaidoyer.
Le plaidoyer.
Au niveau des collectivités, au niveau politique, régional.
Exactement. Ouais. Exactement. Donc on parlait tout à l'heure, on décrivait le Blavet comme étant un canal, en plus segmenté de tout un tas d'écluses tout au long de son parcours, et qui donc ne fonctionne plus en tant que cours d'eau, j'allais dire, naturel. Et ce que l'on promeut auprès donc des décideurs, c'est à la fois de conserver un paysage canal avec le chemin de halage qui permet d'accueillir un certain tourisme vert et de permettre un développement touristique, y compris à l'intérieur des terres, et de ne pas s'attacher à un tourisme du littoral et de plages et compagnie. Mais là, il y a un tourisme vert qui est possible, qui se joue et qui est en train de se développer. Par contre, la navigation éclusière, c'est probablement un mirage après lequel on ne peut plus courir. Et ce qu'on essaye de dire à la région aux agglomérations qui ont en charge un peu la gestion du Blavet, chacune avec leurs compétences respectives, c'est de leur dire, écoutez, avec le changement climatique, on est coincé de revoir l'avenir du Blavet et de lui permettre un développement touristique, certes, mais de renoncer à la navigation éclusière. Et cela pour permettre à la fois probablement une navigation douce avec le kayak, avec le paddle, bon, les petites choses qui peuvent aller dessus, mais qui ont qui supportent une navigation en eau libre.
Mais plus de bateaux, quoi.
Mais plus le bateau. Et ceci permettant à ce cours d'eau d'avoir plus de résilience.
Mais ça veut dire aussi enlever les écluses, enfin, lui redonner son cours naturel?
Alors, enlever les écluses, c'est vrai que là, on se retrouve en butée avec des décideurs qui auront du mal à faire le deuil des grands travaux.
Ouais.
Et c'est vrai que dans l'histoire d'une civilisation humaine, les grands travaux font partie de l'attachement de l'humain à son territoire. Et c'est le cas pour le Blavet, parce que Napoléon est venu à transformer ce cours. Voilà. Et ça reste quelque chose auquel les élus sont très, très attachés.
C'est du patrimoine.
Oui, alors je dis les élus, mais oui, c'est du patrimoine. Alors, c'est du patrimoine bâti. Après, nous, on peut dire aussi qu'il y a un patrimoine naturel qu'il faut pouvoir transmettre aussi à nos générations à venir. Ce patrimoine naturel qui est aussi celui qui va pouvoir concrètement nous sauver d'un certain nombre de...
Et qui est peut-être plus important que le patrimoine bâti.
Ben oui, peut-être, oui. Alors, l'idée, ce n'est pas de péter toutes les écluses.
D'accord.
L'idée, c'est plutôt, et il en a parlé, François Le Sagère, c'est plutôt de les laisser ouvertes. Et pour celles qui, à un moment donné, ne sont plus viables ou quoi, comme celle des écluses de Clignan sur la commune de Neuliac, de ne plus les remplacer. Et là, on retrouve un fonctionnement de cours d'eau, en tout cas du moins qui s'écoule. Il n'y a plus l'échange avec les berges, mais au moins c'est un cours d'eau qui continue à s'écouler. Et c'est assez marrant d'ailleurs, sur les écluses de Clignan, on retrouve une biodiversité des milieux aquatiques qui est tout à fait appréciable. Et en même temps, ça fait plus d'une dizaine d'années que la situation est en l'état. Et les berges n'ont pas été abîmées, parce que ça aussi, c'est une crainte. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'en canalisant un cours d'eau, on va pouvoir le gérer, et notamment le gérer face à ces fluctuations de débit, à la fois quand il y a des intempéries avec des fortes pluies, inondations, et puis en même temps quand il y a sécheresse. On se rend compte que pas vraiment. En fait, un cours d'eau, quand il est libre dans toutes ses dimensions, eh bien, il est apte à recevoir ces variations en fait de pluie.
Ouais.
Voilà. Tout à fait.
Donc, en fait, redonner cette liberté au fleuve, le Blavet, bien sûr, continuer à réduire l'utilisation de produits chimiques aux abords dans l'agriculture. Ça, c'est un gros travail aussi, j'imagine. Oui. Mais ça, c'est essentiel. Et puis, travailler aussi collectivement, nous-mêmes, ou individuellement, sur le fait de limiter le réchauffement climatique. Et là, ça ira mieux, en gros.
Oui. Mais à nouveau, je pense qu'il y a une réflexion sur ce Blavet à se dire que, dans sa configuration, il serait aussi un outil à être plus résistant au changement climatique.
Déjà commencer par là.
Oui. Ouais.
Ok. Au-delà du Blavet, puisqu'on parle beaucoup du Blavet aujourd'hui, mais vous avez aussi une vision à Haute-Rivière de Bretagne, sur tous les cours d'eau de Bretagne. Quel est l'état général de nos cours d'eau en Bretagne? Est-ce que c'est disparate ou est-ce que c'est vraiment, pour tous les cours d'eau, c'est à peu près la même chose? On n'est pas très bien.
Alors, il y a une tendance... Si on dézoomait et qu'on prenait notre envol pour voir la Bretagne dans son ensemble, oui, il y a une différence entre l'ouest et l'est. C'est-à-dire qu'à l'ouest, on a encore des cours d'eau qui sont plutôt
plus sauvages peut-être,
retravaillés par l'homme, ouais. et globalement des états, des masses d'eau qui sont en meilleur état. À l'est, on a des cours d'eau qui sont beaucoup plus retravaillés, recalibrés, même à rectifier. Quand rectifier, c'est remis à droit, pour permettre le passage des machines. Là, c'est vrai qu'on a des masses d'eau qui sont en moins bon état, vraiment. Avec beaucoup plus de plans d'eau, en plus. Les plans d'eau, c'est vrai que c'est une véritable catastrophe. Donc, on a, je dirais, ces deux gros traits de caractère.
Basse-Bretagne et Haute-Bretagne, quoi.
Oui. Après, le bon état, il est déterminé par des critères au niveau de l'Union européenne. Ça veut dire que c'est presque une côte mal taillée, dans le sens où ça convient très bien pour des grands fleuves ou des choses comme ça. Mais sur l'ouest, on est vraiment sur des tout petits cours d'eau. Ouais.
Les ruisseaux qui alimentent les rivières, qui alimentent les fleuves.
Voilà. Et ce sont les petits côtiers qu'on appelle. Et eux, ils vont subir très très vite un apport, j'allais dire, assez important, soit de nutriments, soit de nitrates et compagnie. Ce qui fait que, à la côte, quand on regarde à la côte, comme ce sont les cours d'eau qui alimentent les eaux côtières, on se retrouve avec des eaux côtières qui sont en état franchement moyen.
C'est le cas dans la Rade de l'Orient, par exemple, avec le Blavet?
Par exemple, oui, tous les estuaires sont classés en état moyen. Et donc, ça signifie par là même que le cours d'eau à l'amont, il est trop chargé. Et que, dès lors, à l'aval, on se retrouve avec quelque chose qui est trop en état médiocre. Et c'est aussi vrai sur l'ouest de la Bretagne. Si on a toutes ces marées vertes, c'est parce que les cours d'eau sont trop chargés. Et donc, à nouveau, ça veut dire que même si on dit que c'est tant de milligrammes de nitrate par litre, en fait, au niveau européen, pour être en bon état, oui, on respecte ça. Mais la réalité, c'est qu'il en faudrait X moins temps, parce qu'on se rend compte que le milieu parle de lui-même, si vous voulez.
Melchiorias, on aimerait aller encore plus loin. On a tous envie d'aller plus loin sur cette thématique. Mais déjà, pour que nos auditeurs puissent bien mesurer, plus fortement, ces forts enjeux d'agir pour la préservation, la biodiversité de nos cours d'eau, est-ce qu'il y a des références, des choses vers lesquelles ils pourraient se tourner sur un site web ou simplement peut-être en allant dans des endroits où on peut trouver de l'information?
Oui. Alors, nous, aux Rivières de Bretagne, c'est un peu, j'allais dire, notre cœur de métier. On a dans notre action, le fait de transmettre et de sensibiliser, enfin, et de transmettre l'information. Donc, effectivement, notre site internet est très fourni à cet égard-là, y compris en outils, hein, en outils pédagogiques.
Le site internet, je vais le donner tout de suite, oui. C'est o-e-rivière.org.
Oui, on a aussi une revue papier qu'on édite tous les 6 mois. Qui est disponible en réseau Biocoop, où vous pouvez la commander aussi sur notre site internet. Et après, je recommanderais vivement à chacun de se rendre en médiathèque, parce que là, c'est gratuit. Et dans les médiathèques, ça foisonne de dernières revues. Enfin, j'allais dire, les médiathécaires sont extraordinaires pour ça. Elles mettent à disposition des revues, et notamment sur le climat, sur la biodiversité, qui vont pouvoir éveiller chacun de nous. Et à tous les niveaux, j'allais dire, que l'on soit tout petit ou même après âgé ou plus aguerri sur ces questions-là. Mais voilà, la médiathèque, c'est génial pour ça.
Très bien. Le message compris, foncez tous dans votre médiathèque locale, où que vous soyez, en Bretagne. Melchiorias, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes animatrice territoriale à Haute-Rivière de Bretagne, association donc qui œuvre depuis plus de 50 ans, vous l'avez rappelé, à la restauration, la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans notre région. Merci également à Damien Thillard de Radio Balise, votre radio associative dans le pays de l'Orient. Auray et Quimperlé pour la réalisation technique de cet entretien. À très vite pour un nouveau numéro de Biodiversité en air. Et d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.